Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Vous avez passé la soirée à faire des mises à jour de vos appareils Apple. Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 419. Et oui, si vous avez un iPhone, un iPad, une montre connectée ou un ordinateur Apple qui pouvait faire la mise à jour, vous avez peut-être passé une partie de votre soirée à faire les mises à jour parce que hier, c'était la grande sortie des différentes versions des logiciels, hein, des sorties attendues. Et puis aujourd'hui aussi, on est dans les sorties de nouveaux iPhone, etc. Et si je vous parle de ça, c'est parce que l'invité que j'ai aujourd'hui, eh ben, il est féru hein, de toute la marque à la pomme. Hein. Ça fait, il nous dit, 25 ans qu'il utilise des appareils Apple. Et il a décidé d'en parler aussi hein, dans un podcast, dans un blog, etc., dans ses contenus. Mon invité, c'est David, hein, qui a un blog qui s'appelle c'estpourmapomme.blog, enfin un blog et un podcast, où il parle de tout cet univers-là. Et si je l'ai invité, c'est pas pour parler de pommes, en fait, c'est pas pour parler d'Apple en tant que tel, même si on a un petit peu parlé de la partie technique hein, sur est-ce que les derniers iPhones qui sont en train de sortir là sont intéressants sur la photo, etc. Mais ce qui m'intéressait avec David, c'est que bon, il a un ordinateur hein, à la maison, mais en fait, il ne s'en sert pas, il le démarre plus parce qu'il est fan de son iPad et il crée son contenu sur iPad. Et c'est ce qui m'intéressait, c'est que David, quand il crée son contenu, hein, c'est pas son métier, hein, il a un travail, etc., il a une vie de famille, mais avec un mode de production assez léger, c'est-à-dire un micro qui est branché sur un iPad avec un adaptateur, hein, tout simplement, et ben il arrive à enregistrer son podcast, à faire tout simplement la publication de A à Z de son podcast, de ses billets de blog, etc., de tout ça. Il a même, je lui ai même demandé, hein, la couverture de son podcast, il l'a faite sur l'iPad. J'ai essayé de le piéger même, hein, de lui dire, mais est-ce qu'il y a un truc que tu n'as pas réussi à faire sur ton iPad? Et ben non. Et oui, et c'est ce qui m'a intéressé quand j'ai décidé d'inviter David, c'est que David, parce que j'avais vu un petit peu ce qu'il faisait, pour écouter ce qu'il fait un peu, etc., et parce que c'est, il fait partie de ces, vous savez, des auditeurs fidèles avec qui on a des échanges, des discussions et qui soutiennent le podcast, et j'avais vu qu'il produisait tout sur iPad, et j'ai dit, bah tiens, c'est un bon exemple, justement, de voir, de montrer, de vous montrer que finalement, un smartphone ou un iPad, ce sont des appareils de production extrêmement puissant et surtout alors David qui a un iPad Pro avec les écrans vous pouvez mettre deux applications l'une à côté de l'autre, vous avez des applications de montage photo, de montage vidéo, de montage audio, il nous a donné les logiciels qu'il utilise pour produire son podcast, pour produire de la vidéo, pour faire du montage, pour produire ses images, pour gérer son blog, etc., pour écrire. Et donc oui, vous n'avez pas besoin d'avoir un ordinateur surpuissant pour créer du contenu, vous pouvez créer du contenu avec si vous avez un iPhone, un smartphone, une tablette. Et c'est vrai que dans le domaine, hein, soyons honnêtes quand même, je le dis, hein, c'est pas parce que je suis utilisateur moi-même d'appareil Apple, l'iPad est vraiment une machine de production de contenu qui est devenue extraordinaire au niveau des applications. Les applications dont on parle, hein, qui s'appellent Ferrit pour l'audio, LumaFusion pour la vidéo, sont des applications qui sont vraiment extraordinaires, hein, que vous pouvez piloter au bout des doigts. Et donc j'avais décidé d'inviter David justement pour nous parler de ça, comment il a créé son podcast, pourquoi il a créé son podcast, à quel moment il l'a créé, comment il s'est lancé, comment il le produit, comment il s'organise, comment par exemple il fait pour faire un épisode de podcast juste à la suite hein, de la keynote d'Apple où Apple avait annoncé ben, ses sorties, comment lui il a travaillé là-dessus et comment il arrive à publier, comment il fait sa veille, quels sont les outils qu'il utilise. Ben, on a parlé de tout ça, voilà, dans une environ 35-40 minutes hein, autour de tous ces sujets-là, comment est-ce qu'il s'organise, aussi ses conseils hein, autour des applications, autour de certains matériels. On a un petit peu parlé matériel, mais pas seulement. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment de voir comment finalement un outil comme un smartphone ou une tablette est un outil de production de contenu à part entière, et vous l'avez toujours avec vous. Et c'est ce qu'il il le dit très bien dans l'épisode, c'est ce qu'il dit aussi, c'est que il avait choisi ce mode de production léger, notamment pour pouvoir partir en vacances, pour pouvoir dire, bah, j'amène mon studio de production de contenu directement dans mon sac, je pars avec, tout simplement, je peux produire de n'importe où. Et vous savez, et je l'ai rappelé dans l'épisode, j'ai enregistré environ, je pense, hein, j'ai dit 40 hein, dans l'épisode, je pense entre 40 et 50 épisodes du podcast, hein, sur les 419 que j'ai enregistrés, voire un peu plus avec les hors-série, on va dire sur les 420 épisodes du podcast que j'ai enregistrés, de ce podcast-là, il y en a à peu près entre 40 et 50 qui ont été enregistrés sur mon iPhone directement dans la rue ou dans des bars ou dans le train ou dans des ou sur un quai de gare un jour, etc. Et en fait, si je rajoute derrière mes streetcasts, etc., j'ai produit plusieurs dizaines, voire une bonne centaine au moins d'épisodes directement sur mobile, facilement, et je devrais rajouter avec ça la vidéo. Et c'est pour ça que ça m'intéressait justement d'en parler avec David. Et donc je vous laisse tout de suite à écouter cette discussion avec David. Et bien sûr, hein, comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Hein. Vous faites votrecoachweb.com/419. Je vais essayer de mettre les liens vers les différentes applications, les différents sites dont on parle. Et puis bien entendu, bah, si vous avez un petit commentaire à laisser, bah, n'hésitez pas à aller laisser un petit commentaire sur iTunes, sur mon podcast Votre Coach Web, mais aussi sur le podcast de David, hein, c'est pour ma pomme, où, bah, vous savez, hein, les bonnes notes, hein, comme ça, ça aide toujours les podcasts à se faire remarquer dans les classements et à les faire grimper dans les classements et à ce qu'il y ait plus de gens qui nous écoutent. Voilà, je vous laisse sur cette discussion avec David et je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi pour un nouvel épisode. Bonjour David, comment vas-tu?
Salut Bertrand.
Merci d'avoir
ça va bien.
Ouais, merci d'avoir accepté mon invitation, de prendre un petit peu de temps pour venir nous parler de comment tu crées du contenu, comment tu crées notamment ton podcast. Alors, je te propose d'abord que tu te présentes, hein, pour qu'on sache vraiment ce que tu produis et qui tu es.
Oui, d'accord. David, créateur du podcast C'est pour ma pomme que j'ai créé il y a à peu près un peu plus de deux ans. Et puis depuis deux ans, j'y ai rajouté maintenant le blog. Il y a un an et demi, un peu plus. Et tout dernièrement, là, il y a une semaine, j'ai mis tout le contenu sur YouTube. Comme ça, le contenu est disponible à peu près partout.
D'accord. Et alors, quel est le sujet de ton podcast? Même si ceux qui t'écoutent, ils le savent. Ceux qui ne écoutent pas se doutent que tu parles de pommes, de pommiers, de tarte aux pommes.
Non, pas vraiment. Non, on va dire que le sujet, c'est plutôt tech, photo, tourné vers l'univers Apple. Parce que j'utilise que des produits Apple.
Ouais, t'es un. Est-ce que tu te considères comme un fanboy, un Apple fanboy?
Ouais, à ce stade-là, on peut considérer comme fanboy. Ça fait quand même plus de 25 ans que j'utilise des produits Apple, donc ouais, là on peut se considérer comme fanboy quand même.
Donc tu connais très très bien cet univers-là. D'ailleurs, on peut le dire, hein, ton dernier épisode, c'était le dernier, hein, qui était sur la keynote.
Ouais.
Et j'imagine que tu es un petit peu en attente aussi des sorties, des mises à jour et tout. Là maintenant, ça doit être.
Ah oui, là au moment où on enregistre, elles vont sortir dans quelques heures. Donc on va faire ça ce soir.
Voilà, donc comme tous ceux qui ont du matériel Apple, ce soir il y a la mise à jour. Nous on enregistre, je le dis, on est jeudi après-midi, hein, quand on enregistre. Il sera diffusé demain matin. Donc entre temps, normalement, les mises à jour seront faites. Voilà, mais moi au moins, je suis tranquille. Tout le contenu sera publié. On verra comment ça se passe. Mais en général, ça se passe bien les mises à jour, hein, quand on est quand même chez Apple. Hein.
Ouais, généralement oui.
Voilà. Alors, je t'ai invité parce que je voulais qu'on parle de comment tu crées justement ce podcast, ton blog, comment t'envisageais toi la création de contenu. Et donc, on doit le préciser, hein, c'est pas ton activité principale.
Non, pas du tout.
Donc, ça veut dire que tu t'organises sur ton temps libre, je sais pas, d'ailleurs, finalement, parce que on parlait tout à l'heure de ton épisode de keynote. La keynote, pour nous, elle était à quoi, 19h, 20h?
Ouais, 19h, 20h, elle a duré jusqu'à 21h30, et moi, je commence à enregistrer un épisode comme ça, un épisode d'après keynote. Je commence à l'enregistrer vers 22h, pour terminer le montage vers 1h du matin, à peu près.
D'accord. Et donc, tu as publié ensuite dans la foulée, j'imagine?
Mmh. Ouais, je publie les épisodes de Keynote, généralement, j'ai publié dans la foulée. Ouais.
Comment tu t'organises pour arriver à publier un épisode de Keynote comme ça, juste dans la foulée, parce que t'es à chaud, on va dire, hein?
Ouais, maintenant, je l'ai toujours fait depuis que je tiens le blog et le podcast. Donc, c'est une habitude que j'ai prise. Donc, j'attends que ma fille soit au lit. Et puis, j'enregistre dans la foulée. Je prends des notes, j'enregistre dans la foulée. Et je publie juste après le montage.
D'accord. Alors, t'as l'avantage en faisant ça, c'est que t'es pas influencé par ce que racontent les autres, parce que t'as pas le temps de lire ce qui se passe à côté, finalement.
Bah, en même temps, c'est pour ça que je préfère le faire comme ça, parce que c'est mon avis à moi. J'ai pas les avis extérieurs qui viennent parasiter mon avis. Et c'est vraiment à chaud en fait que j'enregistre.
D'accord. Comment t'es venu d'abord à créer ce podcast? C'est pour ma pomme. Quelle est l'idée de départ?
Alors, l'idée de départ, c'est vraiment une envie depuis pas mal d'années, bah, d'avoir un blog. J'avais fait pas mal d'essais auparavant. Et comme je pense énormément de personnes qui sont dans le streetcast en ce moment, enfin le mouvement streetcast, bah, c'est un peu Guillaume Vendée, toi, le mouvement qui s'est créé il y a à peu près 3 ans. Vu que j'écoutais du podcast depuis énormément longtemps, bah, ça m'a donné envie de le faire. Et puis épisode après épisode, j'ai vu que le contenu plaisait et puis j'arrivais à créer de plus en plus de contenu, bah, donc j'ai continué. Et puis maintenant, c'est vraiment quelque chose, bah, j'aurais du mal à m'en passer vraiment.
D'accord, ouais, c'est vraiment devenu une habitude de réfléchir. Alors j'imagine t'as des idées qui te viennent comme ça un petit peu au fil quotidiennement, quoi.
Ouais, des idées, j'en manque pas. Ça, c'est sûr et certain. Sur la création que ce soit pour le blog, le podcast, j'en manque pas. Au contraire, j'ai même pas assez de temps pour tous les faire. Avec la vie de famille, avec le boulot à côté, c'est.
Tu estimes tu passes combien de temps à peu près sur la création de tes contenus?
On va dire une petite heure par jour. À réfléchir en comptant réflexion, création, prendre des notes. Et une fois que tout est bien dans ma tête, tout est bien droit dans ma tête, après ou sur le blog j'écris, ou alors je vais enregistrer d'un jet.
Ouais. Alors, on a dit, alors là, j'ai compté, t'as fait 66 épisodes. Hein, c'est ça, hein,
Ouais, c'est ça, ouais.
c'est ce qui me semble avoir vu.
Oui, c'est ça.
Donc 66 épisodes, en combien de temps? En 3 ans à peu près, tu...
Ouais, 2 ans, un peu plus de 2 ans.
Un peu plus de 2 ans. Donc ça fait quand même une régularité, on va dire une semaine sur deux à peu près, grosso modo, hein, ça veut dire...
Ouais, c'est dans ces eaux-là. Après, il y a énormément de passages comme cet été où, dans le sujet que je traite, c'est-à-dire le monde Apple, il y a des moments où il n'y a pas vraiment grand-chose à traiter. Donc, je vais pas faire des épisodes pour parler dans le vent. Donc j'attends vraiment ou une grosse news, ou que j'ai testé un produit, ou que j'ai un truc et astuce à donner pour vraiment enregistrer.
D'accord. Alors, ce qui m'intéressait aussi, une raison pour laquelle je t'ai invité, c'est bon, d'une part parce que tu sais, effectivement, tu produis ça en plus du travail, de la vie de famille, etc. Et donc, c'est une activité secondaire, hein, je sais pas comment tu peux l'appeler, je sais pas comment tu présentes ça d'ailleurs, si t'en parles autant de toi, comment tu présentes ça?
Une passion, on va dire une passion, carrément.
Ouais, une passion.
Ouais, c'est vraiment une passion parce que, comme je le disais juste avant, l'envie de créer un blog, ce n'est pas une envie qui est arrivée il y a 3 ans. Ça faisait des années et des années que j'avais envie de créer du contenu sur le web. Plusieurs essais qui n'ont pas marché, et j'avais toujours l'idée, à quelque part, de le faire. Le fait que et ça a marché. Et j'ai les idées. Disons que ça s'est plus concrétisé ce coup-ci que les autres blogs que j'ai voulu monter avant et qui n'avaient pas franchement marché. J'avais pas la bonne idée, j'avais pas le.
Est-ce que tu penses d'ailleurs que le fait que ce soit un podcast, c'est pu jouer sur un succès différent, sur une manière d'en parler différent par rapport à ce qui se fait à côté, hein, parce que l'univers Apple est quand même rempli de gens qui en parlent, mais est-ce que le fait que ce soit en podcast, finalement, est pas un peu différenciant en soi?
C'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé à créer le podcast, l'idée que j'avais en tête, c'est d'avoir un podcast qui traite d'Apple en français. Parce que des podcasts sur Apple, il y en a quand même, comme tu le dis, des millions. Mais en français, il y en a autant que ça. En format podcast, il doit y en avoir, allez, on va dire, trois gros. Mais sinon, il n'y a pas de podcast vraiment qui parle du sujet Apple en profondeur.
Bah, c'est vrai parce que c'est un truc qui était d'ailleurs assez curieux, c'est que les gros sites qui parlent d'Apple en France, hein, les Mac G et compagnie, n'avaient pas de podcast, hein, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Alors que les Américains ont des podcasts dans tous les sens, où ils en parlent dans tous les sens. Alors je pense bien sûr à l'univers autour de Mac Stories et compagnie, où là il y en a dans tous les sens, et ils arrivent à traiter ça dans la finesse, hein, qui doit te faire rêver, j'imagine, parce que quand tu écoutes ce qu'ils font, tu dois te dire, oh là là, si j'avais du temps.
Ah bah c'est clair que bah que comme dans toute passion on a des comment je pourrais dire on a des personnes qu'on suit vraiment et j'ai pas envie de dire qu'on a envie de ressembler mais qui donne quand même un but à atteindre et oui les Mac Stories les Léo Laborde toute cette mouvance-là de podcast américain ouais c'est vraiment quelque chose que je suis chaque épisode et que j'aime vraiment ouais.
Ouais. Alors je sais pas, est-ce que tu suis Mac Sparky aussi?
Oui.
Ouais, alors ce qui est intéressant, c'est que lui aussi, finalement, l'univers Mac, c'est sa deuxième activité, puisqu'il est avocat, hein, ce qui est quand même assez incroyable, parce on imagine les avocats débordés par plein de choses. Et en fait, on se rend compte quand même qu'il a du podcast, du blog, etc., qui est extrêmement fourni. Et donc ça montre aussi, voilà, qu'il y a des exemples, hein, qu'il n'y a pas que des gens qui font que ça, hein, et qu'on a une place à se faire. Mais que j'imagine, voilà, c'est une question d'organisation. Enfin, j'imagine, je le sais, parce que c'est aussi mon cas sur certains jours où il faut vraiment s'organiser pour que tout rentre dans une journée, voilà. Et je pense aussi que ça vient aussi des outils. Et c'est ce que je voulais, sur quoi je voulais venir, hein, c'est que finalement, tu as une manière de produire aussi ton contenu. J'avais envie de dire très légère, hein. Je sais pas comment toi tu vois les choses, mais on peut dire que t'as pas beaucoup, beaucoup d'outils pour arriver à produire ton podcast.
Bah, c'est ce que je voulais dès le départ. Je voulais pas. Déjà, j'utilisais de moins en moins mon Mac et je voulais vraiment passer sur un setup que je puisse emmener partout, que je puisse produire du contenu partout où j'allais. Que je sois avec. Là, j'ai pas cette année parce que je suis pas parti en vacances, mais l'année dernière, je suis parti en vacances dans le sud. J'ai réussi à créer des épisodes, à créer des billets de blog alors que j'étais pas à la maison. Et c'est ça vraiment que je recherche au départ, c'est de pouvoir créer du contenu partout où je suis. C'est pour ça que je fais tout sur mobile.
Ouais. Alors, on dit léger, hein, mais je crois que tu avais fait un épisode sur ce que tu as mis dans ton sac en vacances l'an dernier. Moi, j'avais halluciné parce que, attention, le léger est quand même très relatif, hein, si on retrouve l'épisode. J'essaierai de le mettre dans les notes de l'épisode parce que, quand même, j'avais un souvenir que ton sac était très, 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 très bien rempli. Mais finalement, pour produire ton podcast, tu as besoin de quoi?
Ben, d'un micro, d'un iPad.
Voilà, seulement le micro, l'iPad, un connecteur entre-temps, hein, j'imagine.
Ouais, le connecteur Apple USB Lightning, juste pour avoir de la batterie en plus sur l'iPad, parce que le micro que j'utilise, moi, c'est le Blue Yeti. Et il faut obligatoirement mettre une batterie externe pour que l'iPad tienne vraiment la charge. Mais
Ouais.
sinon, non, j'ai besoin de rien d'autre.
Voilà, donc tu as un iPad, un micro, un connecteur entre les deux. Qu'est-ce que tu utilises comme logiciel d'ailleurs, tiens, sur ton iPad pour arriver à enregistrer?
Alors, j'utilise Ferrite depuis, on va dire, une vingtaine d'épisodes. Avant, j'utilisais GarageBand, mais je trouvais qu'il y avait clairement des manques au niveau du logiciel. Et j'ai décidé, à un moment, j'avais vraiment entendu parler de Ferrite depuis des mois et des mois. J'ai décidé de me lancer, d'essayer. Et c'est vrai que là, c'est vraiment le logiciel que j'attendais. C'est le logiciel qui me permet de faire exactement ce que je veux.
Ouais, alors
Et en plus, ils annoncent une grosse, grosse mise à jour d'après ce que j'ai vu ce matin.
Ah oui, alors ça je l'ai pas vu, mais c'est vrai que moi j'utilise Ferrite sur mon iPhone, hein. Il y a, je pense, 40 épisodes sur les 400 de votre coach web qui ont été enregistrés directement sur l'iPhone avec Ferrite, et je dis peut-être même plus, hein, parce que quand mon Mac était tombé en panne, j'enregistrais tout sur l'iPhone. Et il a des processus, alors je sais pas si t'as pris la version, les options payantes, pro et compagnie, parce qu'il y a différentes options, mais il a même de l'automatisation de son qu'on n'arrive pas à trouver si facilement que ça sur les logiciels de bureau.
Oui, c'est clair. Il est vraiment extrêmement complet pour un logiciel d'iPad, comme pas mal de logiciels maintenant.
Et oui, parce que c'est là où on voit que l'iPad est quand même une machine de production de contenu qui est fabuleuse en plus. Avec le tactile fait que si tu veux déplacer un bout de son, tu le déplaces avec les doigts. Hein. C'est extrêmement facile. Je le dis pour ceux qui connaissent pas, mais sur Ferrite, quand on veut couper un son, enlever un bout, on tire un trait de haut en bas et ça le coupe. Ça paraît tellement simple dit comme ça que c'est vrai que on se dit qu'on pourrait tout produire sur un outil comme ça. Est-ce que tu vois quand même des trucs, tu te dis, mais j'arrive pas à le faire sur mon iPad et ça m'embête un peu.
Je pense pas, pour moi, à mon niveau, non, parce que le podcast est vraiment pas assez. On va dire que ça reste encore du travail d'amateur. Donc non, moi j'ai aucun truc qui me freine. Mais oui, je pense que pour certains qui utilisent vraiment ça de manière pro, il doit y avoir des manques, clairement. Ça reste qu'une application iPad par rapport à de grosses applications telles que Logic ou. Mais moi, non, je vois aucune restriction par rapport à l'utilisation que j'en ai.
Ouais. Alors là, on a parlé de la partie enregistrement. Tu utilises un logiciel de notes en particulier pour préparer tes épisodes ou finalement tu prépares sur du papier?
Non, j'utilise le logiciel Note d'Apple d'origine.
Très classique. On n'a pas dit quel modèle d'iPad utiliser par contre, tiens.
L'iPad Pro dernière génération, le 11 pouces.
Ouais.
Le tout dernier.
Ouais, donc ça veut dire que tu peux couper ton écran, avoir les notes et Ferrite en l'un à côté de l'autre, hein, finalement.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est ce qui permet aussi de pouvoir garder les notes, contrôler que ça enregistre bien. Même si Ferrite, je le dis pour ceux qui connaissent pas, met un petit message en haut, hein, comme quoi ça enregistre. Hein. On voit le décompte, mais bon, c'est toujours bien de pouvoir contrôler. Quand tu as fini, donc tu montes ça sur Ferrite, t'exportes, et comment tu fais pour la partie publication ensuite?
Assez simplement, mon podcast est hébergé sur Spreaker, donc de l'iPad, c'est tout simple. Je fais partage du fichier directement sur l'application Spreaker. De l'application Spreaker, je rentre mes notes d'émission dans les champs qui sont faits pour ça et je publie aussitôt.
Voilà. Donc un flux de production qui est d'une simplicité redoutable, qui marche. Alors là on parle sur iPad, hein, mais vous pouvez le faire aussi. On le dit, moi je le fais sur iPhone. Hein. Alors moi j'utilise un autre micro que le tien, mais qui se branche directement Lightning en plus, donc j'ai même pas besoin de connecteur. Mais c'est vrai et c'est faut pas l'oublier que finalement c'est tellement intégré tous les outils etc que les applications sont capables de se passer les fichiers les unes aux autres. Souvent on me dit mais pourquoi j'ai choisi Spreaker pour comme hébergeur de mon podcast, c'est aussi parce que je suis capable de publier n'importe où directement en mobilité et que c'est quand même un gros avantage. T'arrives à gérer ton blog aussi avec ton podcast?
Tout est géré sur l'iPad, pareil directement sur l'application WordPress. J'ai besoin d'un ordinateur. J'ai pas besoin d'un ordinateur pour quoi que ce soit.
D'accord. Parce qu'il y a des gens, j'ai vu une discussion hier, tu sais, il y a des gens qui pensent pas qu'on puisse gérer un blog WordPress, par exemple, directement sur un mobile, alors qu'on peut publier même sur iPhone, hein, on peut publier du contenu tranquillement. Je sais pas, par exemple, ta vignette de podcast, est-ce que tu l'as faite aussi sur l'iPad?
Oui, les vignettes de podcast, les vignettes de YouTube, là, depuis que j'ai ouvert la chaîne YouTube pour remettre les podcasts, je les fais directement sur l'iPad avec Procreate et ça prend 10 secondes.
Voilà. Alors, tu voyais, je suis en train d'essayer de chercher à quel moment David pourrait ne pas être limité par son iPad. Et pour l'instant, j'ai pas trouvé, mais c'était un petit peu ce que je cherchais aussi à dire, c'est que finalement, alors, on parle de l'iPad, on n'est pas obligé d'avoir un iPad Pro pour que ça tourne. Vous pouvez avoir un iPhone, ça tourne aussi. Les iPads en plus petits modèles tournent aussi, hein, parce que les Ferrite n'a pas besoin finalement d'une grosse puissance. Je ne sais pas comment ils sont débrouillés pour l'optimisation du technique de ce logiciel est quand même assez fabuleuse, hein, parce que mon iPhone 7 par exemple le fait tourner sans aucun problème. Vraiment, on n'a pas besoin d'avoir énormément d'outils comme ça. Est-ce qu'il y a des applications d'ailleurs dont tu peux pas te passer sur ton iPad au moment de créer ton contenu, des petits trucs, tu dirais, il y a une application qui est vraiment extrêmement utile pour moi.
Les applications que j'utilise le plus pour créer du contenu, comme je l'ai dit, c'est Ferrite, l'application Spreaker pour publier. L'application Byword pour écrire mes textes que je vais renvoyer sur le blog, l'application WordPress, et après, à côté de ça, c'est pas du contenu que je publie sur le web, mais autrement l'application LumaFusion, qui clairement, pour moi, est une des applications les plus importantes sur mon iPad.
Ouais. Alors là aussi, pareil, LumaFusion, pour faire du montage vidéo, hein, pour ceux qui connaissent pas, LumaFusion fait partie aussi de ces applications où, bah moi je préfère monter sur mon mobile et sur mon iPhone que sur mon Mac, je le dis très clairement. Surtout en plus avec les nouvelles versions, ils ont encore doublé le nombre de pistes qu'on peut mettre. Au tactile, et ben c'est beaucoup plus confortable en plus sur l'iPad pour déplacer les segments, etc. Ça fait partie voilà des applications pro. Je mettrai les liens de toute façon dans les notes de l'émission parce que tu as parlé de Byword pour le texte. Alors Byword pour ceux qui connaissent pas, c'est un logiciel de un petit traitement de texte on va dire hein, qui permet de travailler avec un balisage en Markdown, qui est un balisage assez simple. Et si vous avez un Mac, eh ben vous pouvez récupérer les mêmes contenus parce que Byword existe aussi sur Mac. Par contre, si vous avez du Windows, bah là non, ça marche pas. Non, mais on se moque pas, David, hein, je te vois sourire là dans ton truc, mais si ceux qui sont intéressés quand même, IA Writer a osé sortir une version Windows d'ailleurs, et c'était très intéressant de voir que c'est pas simple, c'est pas très simple pour eux de développer la même chose entre un Mac, un Windows, un iPhone, etc. Ce que proposent les développeurs des logiciels, c'est très compliqué à arriver à harmoniser, on va dire, l'expérience, en fait, hein, tout simplement. Il y a les logiciels qui sont vraiment, vraiment, qui se ressemblent partout, c'est pas si simple que ça. Donc on a bien fait un bon petit tour de tes logiciels. Comment tu t'organises, ce qui m'intéressait pour ta veille, parce que j'imagine tu dois faire quand même, par passion déjà, beaucoup de veille sur tout le secteur, sur tout ce qui se passe. Est-ce que tu as des petites astuces, des petits outils particuliers?
Alors déjà, premièrement, c'est le podcast. Ma plus grosse veille, c'est le podcast. Comme je l'ai déjà dit dans énormément d'épisodes, j'écoute, je pense être une personne qui écoute vraiment plus de podcasts que la moyenne. J'ai la chance au travail de pouvoir écouter mes podcasts. Donc en gros, j'écoute entre 8 et 10 heures de podcasts par jour sur ce sujet. Donc ça fait déjà une grosse veille. Et puis après, bah, y a tous les sites internet, Twitter.
Ouais, tu utilises quel logiciel de podcast pour écouter?
Je sais plus exactement. Overcast.
Overcast, d'accord. Moi j'écoute Pocket Cast. Alors j'ai pas réussi à me faire Overcast, hein, je t'avoue que j'étais passé à Overcast et puis je suis revenu à Pocket. Et qui vient d'annoncer d'ailleurs un nouveau format un nouveau fonctionnement, un nouveau modèle économique. Alors, pour l'instant, quand on était les versions pro comme moi, ils nous font cadeau de 3 ans. Donc, c'est royal, hein, leur nouvelle formule. Mais sinon, ils font partie de tous ces gens-là qui passent à l'abonnement. Donc, les applications par abonnement. On va pas faire un débat sur combien ça nous coûte de s'abonner à toutes ces applications parce qu'au bout d'un moment, ça monte cher, mais celle que tu utilises et dont on a parlé, Ferrite, c'est de l'achat. Il y a un achat in-app pour ajouter finalement des fonctionnalités, mais qu'on n'en a pas forcément besoin. LumaFusion, c'est un achat unique. Même les mises à jour, c'est de l'achat unique. Alors, c'est des applications à 20 euros, hein, si mes souvenirs sont bons.
Ça reste de toute façon beaucoup moins cher que des applications que tu utiliserais sur Mac ou sur un ordinateur. Au final, pour la même chose, parce qu'on peut faire exactement les mêmes choses.
Voilà. GarageBand est même gratuit, parce que GarageBand, finalement, c'est Apple qui le fait, donc eux, ils le font en gratuit, hein.
Oui, mais un peu limité à mon goût quand même. Sur
Oui.
certaines choses.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'arrive pas. Alors, j'ai essayé. Alors, je vais être très honnête, j'ai essayé, je n'arrive pas à monter. Mais que ce soit sur Mac ou sur mobile, je n'arrive pas à monter sur GarageBand. Je suis un peu allergique. Alors, on fait un peu le podcast avec ma femme, on l'a fait un peu sur GarageBand. Je n'ai pas mes réflexes, hein. Vraiment, j'arrive pas. Il y a des trucs qui le fonctionnement de certains trucs me dit, mais c'est pas possible qu'on arrive à travailler avec ça. Donc, voilà, je suis assez d'accord avec toi sur cet aspect-là. Pour finir sur tes outils comme ça, tu fais beaucoup de photos aussi.
Ouais, pas mal, ouais.
Ouais. Alors, est-ce que là, tu as aussi des applications particulières que tu utilises, des petits chouchous?
Ben, la plus connue, on va dire, hein, Lightroom. Je l'utilise partout, sur mon téléphone, sur mon iPad, pour la retouche de photos. Après, ben, les applications normales que tout le monde, quasiment tout le monde utilise. Hein. Beaucoup d'applications, l'application photo d'origine de l'iPhone pour faire des photos quand je ne fais pas de photos avec mon boîtier. Sinon, l'application Moment, j'aime bien vraiment l'application Moment. Je ne sais pas si tu connais les objectifs additionnels.
Oui.
Et puis voilà, les applications de base, on va dire.
Ouais, on avait parlé d'application, on avait parlé de Moment, hein, pour ceux qui s'en rappellent, dans l'épisode avec Thibaut, parce qu'il a des objectifs. Tu dois avoir des objectifs aussi, Moment, j'imagine, ou.
Ouais, j'en ai deux. J'ai le grand angle et le 56 mm.
Voilà. Alors ceux qui se posent la question, tu recommandes ou tu recommandes pas?
Ah, je recommande fortement. Et d'ailleurs, je vais en parler sur le blog dans pas très longtemps parce que j'aurai un cadeau à faire gagner. De la part de Moment. Donc, ouais, clairement, je recommande.
Donc voilà, donc je vous mettrai bien dans les notes de l'épisode pour vraiment aller voir sur le blog, parce que si en plus il y a des cadeaux, c'est encore plus intéressant. Mais c'est vrai que Moment, ça fait partie des objectifs, hein, qui ont une qualité qui est vraiment exceptionnelle, par rapport à des objectifs, on va dire, ce que j'appelle les petites chinoiseries à 15 euros. On est vraiment sur un truc au-dessus. Lightroom dont on a parlé, c'est vrai que c'est le standard, hein. Moi j'utilise pas, voilà, je dis très clairement, ça fait partie des applications que j'utilise beaucoup. Je l'ai quand même sur mon téléphone pour. Il y a un truc qui est pas mal dedans quand même, ce sont les profils, hein, comment on appelle ça? J'ai perdu le mot, tu vois.
Les presets.
Les presets, voilà. Donc j'ai récupéré quelques presets, etc. Mais c'est vrai, je suis un peu allergique, moi, tu sais, je suis un peu allergique au monde Adobe, en fait. Alors j'ai trop travaillé dessus. J'ai réussi à m'en passer. Moi, j'aime bien Alid comment il s'appelle Alid pour la photo et Darkroom pour le retraitement des photos, que je trouve qui est quand même une application qui est là aussi très 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 bonne et qui n'est pas sur abonnement non plus d'ailleurs.
C'est les applications que j'ai aussi sur mon téléphone.
Ouais. Et c'est vrai que l'application Moment, on doit le préciser, on a parlé de photos, mais elle permet de filmer aussi, faire de la vidéo. Et il y a des réglages, on arrive à accéder à des réglages, si vous voulez filmer en 4K, si vous voulez filmer dans certains modes un petit peu particuliers, qui sont beaucoup beaucoup plus accessibles que si vous filmez avec l'application native de l'iPhone, parce qu'en fait les fonctionnalités, elles existent, hein. Apple a mis en place des fonctionnalités, mais qu'on ne trouve pas forcément facilement dans l'application par défaut. On pense au RAW par exemple, on pense à plein de choses, et puis ils rajoutent des choses comme des zébras, ils rajoutent des choses comme le contrôle de profondeur, etc. Ça vaut le coup, hein, si vous n'êtes pas trop fan de ces applications-là, ça vaut le coup quand même, je pense, de s'aventurer, je sais pas ce que t'en penses, hein.
Ah bah ça, puis ça va encore augmenter là avec les nouvelles itérations de l'iPhone. Il va y avoir encore plus de possibilités, des applications qui seront encore plus poussées, qui auront plus un côté professionnel que même que ce qu'on a là.
Ouais. Tiens, alors tiens, tant qu'on parle de nouvel iPhone, parce que dans la dernière keynote, justement, c'est nouveaux iPhones. Et hier, tu vois, j'ai lu le contenu d'une créatrice de contenu qui posait une question, qui disait, elle dit, bon, bah, je voudrais changer mon iPhone 7. Je veux acheter un smartphone qui fait des meilleures photos. Son seul critère, c'est l'achat, c'est d'avoir des meilleures photos. Est-ce que tu lui recommandes un modèle en particulier dans tout ce que tu as vu là? Tu te dis, tiens, il y a un modèle de l'iPhone qui sort là, ou qui est déjà sorti peut-être, sur lequel vraiment en photo ça va être une tuerie.
Bah écoute, si je me base sur ce qui se dit, parce que bon, on l'a encore pas en main, on l'aura que demain. Justement, là, j'ai sous les yeux un article qui est sorti ce matin. Je ne sais pas si tu connais, c'est un grand photographe américain qui s'appelle Austin Mann.
Oui.
Et il a un blog sur la photo et il a fait une review sur l'iPhone 11 Pro qui est clairement dithyrambique. Je ne sais plus exactement, je pourrais pas te le citer, mais il dit que c'est la plus grosse avancée qu'il y a eu sur l'iPhone en termes de photos depuis 2012 est le mode panoramique. Donc clairement, à mon avis, les iPhone 11 Pro vont élever le palier au niveau de la photo sur les iPhones.
Ouais, et puis avec ce qui a annoncé un gros progrès sur la photo de nuit, hein, qui était un peu la faiblesse par rapport à chez Google. Bah tu vois, moi cette créatrice de contenu, elle se disait, ah, est-ce que je vais pas aller chez Huawei, etc. Tout le monde lui dit, prends le P30, etc. Moi je lui dis, écoute, méfie-toi, attends un peu, regarde les tests, regarde ce qui va sortir, parce que je pense quand même que ça peut valoir le coup.
Je pense, et puis là même sur YouTube, il y a déjà des vidéos comparatives. Je pense à une vidéo que j'ai regardée hier soir d'Justin qui fait des comparatifs justement entre le Pixel et l'iPhone. Et clairement, le Pixel est en dessous de l'iPhone. Même s'il y a le Pixel 4 qui va sortir dans très peu de temps, là, en tout cas, si on se base sur le modèle de l'année dernière, l'iPhone est au-dessus.
Voilà. Et il faut le dire, hein, c'est vrai qu'on voit quand même qu'avec ces derniers modèles, et puis ils ont mis le mot pro en plus dessus, mais je pense que pour ceux qui font de la vidéo mobile, qui font de la photo, beaucoup de photos mobiles, etc., là, on va vraiment, vraiment, et ça finir, je pense, enterrer certains usages des appareils photo, des boîtiers, des gros boîtiers pour beaucoup. Hein.
Oui, clairement, ouais, clairement. De toute façon, maintenant, comme on le disait au début, que ce soit en mobile, sur téléphone ou sur iPad, on peut quasiment tout faire ce qu'on faisait avant. Après, avoir un boîtier, oui, c'est bien pour avoir différents objectifs, et encore, on peut le faire sur téléphone avec des objectifs additionnels, mais il y a encore quelques photos qui ne sont pas faisables avec un téléphone, mais on s'en rapproche, clairement, on s'en rapproche de plus en plus.
Ouais, et c'est vrai que là où on voit des fois des écarts, c'est sur les traitements de l'image. Moi, je pense souvent que c'est la fonction portrait où il y a des aberrations qui viennent du traitement, comme il calcule les images. On voit que c'est un calcul qui est informatique, hein. Contrairement à un boîtier où tu auras un objectif, tu pourrais vraiment, ça serait de l'optique et c'est vraiment différent et on voit la différence. Mais comme les logiciels progressent au fur et à mesure, ben les différences ont une tendance à diminuer et ça se voit de moins en moins, quoi.
Et puis, est-ce que les gens recherchent vraiment la photo parfaite, à part certaines personnes comme moi, comme d'autres, qui font de la photo, qui connaissent la photo? Les gens, on va dire, normaux, regardent pas ces détails-là. Ça m'étonnerait.
Ouais, ou alors ils s'en rendent compte. Alors moi je le dis souvent, c'est que ça me fait rigoler, c'est que ça me fait disparaître des câbles de mes écouteurs quand je fais des photos de running. J'ai l'écouteur dans les oreilles, mais j'ai plus les câbles, mais ça vient des traitements comme ça. Moi je le vois, mais c'est vrai, comme tu dis, je suis pas certain que ceux qui voient ma photo, eux, voient qu'il y a un truc qui cloche. Bon, c'était une petite parenthèse technique, mais qui est importante, hein, parce que c'est vrai que le matériel arrive, on est toujours un petit peu tenté, on sait pas trop quoi choisir, et c'est pour ça que je voulais t'inviter, parce moi je dis toujours que de toute façon, l'appareil, peut-être le plus puissant pour créer du contenu actuellement, entre l'iPhone et l'iPad, c'est l'un de ces deux appareils-là, de toute façon, mais que dans tous les cas, on a dans la poche de quoi créer n'importe quel truc. Qu'on veut faire de l'Instagram, hein, parce que tu es sur Instagram, qu'on veut faire du podcast comme tu le fais, du blog comme tu le fais, de la vidéo sur YouTube, bah on a parlé de LumaFusion, on peut le faire avec un smartphone ou une tablette, parce qu'on pourrait travailler avec l'un et l'autre, hein, d'ailleurs. Filmer avec l'un, monter sur l'autre, sans problème, hein, dans l'écosystème, ça fonctionnerait. Donc vraiment, écrire, tu en as parlé avec Byword. Donc voilà, on a fait un bon tour finalement de se dire. Bah, c'est vrai qu'un iPad, ça suffit très largement pour créer du contenu.
Ah oui, clairement. Moi, là, ça fait 2 ans à peu près que je suis passé full iPad, que j'ai plus du tout d'ordinateur. Enfin, je l'ai, mais il est plus du tout allumé. Et j'ai aucune restriction. Je fais absolument ce que je veux avec les logiciels. Bon, clairement, de temps en temps, il faut que je rachète un logiciel. Là, j'ai été obligé d'acheter Procreate il y a très peu de temps. Mais sinon, non, j'ai plus du tout besoin d'un ordinateur, un iPad, un iPhone. Et ça me suffit largement.
Voilà. Bon, ce petit tour technique étant terminé, logiciel, etc., je voulais qu'on finisse sur un petit peu, toi, comment tu vois l'avenir de tes contenus, finalement, parce que tu nous as dit que tu as tout mis sur YouTube, hein, maintenant, tes podcasts aussi.
J'ai commencé à le mettre sur YouTube.
Ouais.
Là, j'ai mis que le dernier épisode. Alors, je ne sais pas si je vais remettre les anciens ou si les futurs, ils seront toujours. Après, j'attends pas franchement grand-chose de YouTube. C'était juste pour avoir une plateforme en plus, bah, pour distribuer le podcast, pour qu'il soit visible un peu partout. Mais clairement, j'ai pas envie de tourner vers YouTube. Je préfère rester et sur le podcast et sur le blog, plutôt que me disperser et aller un peu partout, quoi.
Comment tu vois d'ailleurs l'avenir de tes contenus? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais monter? Est-ce que tu as des projets comme ça en tête? Tu te dis, tiens, il y a des trucs que j'aimerais bien faire quand même.
Bah, pour l'instant, l'avenir, continuer comme c'est, peut-être un. Alors, j'aime pas trop le mot, mais peut-être un peu le professionnaliser. Mais pas dans le terme gagner de l'argent avec, mais que la qualité soit meilleure, que la qualité du podcast soit meilleure. Que là, j'ai rechangé tout le design il y a quelques jours, une semaine, du site, du blog. Voilà, essayer d'avoir une cohérence dans tout le contenu que je crée, et que ça soit un peu plus pro, on va dire, mais même si j'aime pas ce mot-là, quoi.
Ouais, mais bon après c'est vrai, hein, c'est comme ça, on se lance avec des, ça ressemble à ce que ça ressemble au départ et petit à petit on perfectionne, hein, c'est exactement le principe du contenu minimum viable, hein, son blog etc. il évolue et puis on change de goût aussi au fur et à mesure, hein, il y a des nouvelles envies donc il y a des trucs on se dit tiens je pourrais faire
Ouais,
ça, je
clairement.
pourrais faire ça etc. Allez pour finir, est-ce que tu auras un conseil pour des créateurs qui veulent se lancer? Quelqu'un se dit tiens je viens d'écouter David et Bertrand ce qu'ils viennent de raconter, j'ai envie de me lancer, est-ce que tu as un conseil à lui donner?
Bah, clairement, le conseil le plus simple, c'est de pas se fier à ce que les gens disent autour et de se lancer. Si quelqu'un a envie de se lancer, qu'il se lance. Après, peut-être pas publier tout de suite, mais au moins essayer d'enregistrer, d'écrire, faire relire par les personnes qui sont vraiment proches, qui ont un avis qui compte. Et puis voilà, et puis si ça plaît aux personnes, bah, pourquoi pas le publier et puis voir ce que ça donne, hein. De toute façon, sans publier, on ne peut pas savoir ce que ça donne.
Ouais, et bah tiens, ça nous m'amène à la notion de retour. Est-ce que t'as des retours? Est-ce que t'as des commentaires? Est-ce que t'as eu ces fameux méchants, ces commentaires méchants, ou toi non plus, t'en as pas trop croisé finalement?
J'ai pas tant que ça de commentaires, moi. J'ai pas mal de retours au niveau des statistiques. Je vois que le podcast est écouté, que le blog est lu. Mais des commentaires, des messages, j'en ai pas tant que ça. J'en ai quelques-uns. Mais non, pas de commentaires vraiment méchants. Ça reste toujours assez bienveillant. Et puis, c'est toujours. Ou des conseils. Enfin, c'est toujours quelque chose pour améliorer le contenu.
Voilà.
Donc non, c'est bien.
Ben, c'est ce qu'on disait avec Thomas dans l'épisode précédent, il y a 15 jours, hein, quand j'avais reçu, qui me disait que il avait. Ben, il y a beaucoup de créateurs, hein, enfin de ceux qui ne créent pas, qui ont peur de ces fameux commentaires, de ces fameux retours négatifs, etc. Et en fait, quand on discute, c'est vrai que les gros créateurs qui ont des milliers de vues, ben, ils viennent se coltiner après des commentaires pas sympas, parce qu'il y a toujours des gens qui passent dans le coin et qui n'avaient rien à faire. Mais faut pas, c'est pas ce qui doit vous faire peur en fait quand on se lance, hein. C'est pour ça que je pose la question régulièrement aux invités que j'ai, parce qu'en fait on se rend compte que c'est pas le frein, il est pas là. Le frein, c'est d'abord, bah, tu l'as très bien dit, c'est l'envie de faire quelque chose, est-ce que vous avez envie ou pas de le faire, et ensuite c'est d'oser se lancer.
Ouais, clairement, ouais. Clairement, de toute façon, sans se lancer, on ne peut pas savoir ce que ça va donner. Donc, bah, il faut faire un test. Peut-être que ça ne marchera pas, auquel cas, il faut se tourner vers autre chose, peut-être une autre plateforme. Mais sans se lancer, on ne pourrait de toute façon pas savoir. Donc, le meilleur moyen de savoir, c'est d'essayer.
Voilà, et ben ça fait une conclusion qui est parfaite. Avant de se quitter, je vais te demander où est-ce qu'on peut te retrouver, t'écouter, te lire, te suivre en photo aussi.
Bah, le plus simple, c'est sur le blog. Le blog, c'est vraiment l'endroit où je mets tout. Il y a les liens pour avoir accès à tout, que ce soit le podcast, Instagram, mon Twitter. Donc, c'est vraiment le blog, le centre de mon contenu. Après, il y a le podcast et il y a Instagram. Mais tout est bien relié sur le blog.
Voilà, et donc l'adresse du blog, c'est pourmapomme.blog.
C'est ça.
Voilà, comme ça, bah en plus c'est original le point blog, hein, comme ça, c'est toujours sympathique.
Ça change.
Ouais, puis il est pas très cher. Alors attention, alors je dis quand même, pour ceux qui voudraient, qu'ils ne savent pas, les points blog ont des extensions qui coûtent très très cher dans certains cas et qui sont pas chères dans d'autres. Alors quand c'est des mots comme ça, c'est pas très cher. Mais si vous avez la mauvaise idée de vouloir déposer votre prénom point blog, vous allez voir, ils vont vous faire une facture. C'est 700 euros par an. Hein. Voilà, je le dis très clairement. Mais le point blog est une extension qui est accessible et qui, pour l'anecdote, appartient, enfin, est gérée par par WordPress, par les équipes de WordPress, par Automatique, puisque c'est eux qui ont eu le droit de l'exploiter. Voilà. Bah, je te remercie beaucoup, David, pour le temps que tu as passé avec nous, pour tes conseils, pour bah, finalement aussi ce partage de ton utilisation de l'iPad, hein, qui est un outil créatif auquel, bah, des fois on pense pas. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens, hein, qui statent, qui se posent des questions. Pour ceux qui se posent vraiment des questions et qui ont des utilisations plus pointues, je pense que tu me diras pas le contraire, mais la lecture de Mac Stories,
Clairement.
là il y a vraiment quelqu'un qui pousse la machine très 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 loin. Hein.
Ils ont même fait des podcasts dernièrement. Là, il y a le podcast Adapt qui est sorti il y a quelques mois et qui se tourne clairement sur l'iPad. Et là, pour apprendre des choses au niveau automatisation, c'est vraiment l'endroit le plus poussé que je
Ouais.
connaisse en tout cas.
Et oui, parce que effectivement, c'est vrai qu'en plus on l'a pas dit, l'avantage pour l'instant, hein, pour l'instant, de l'iPad, c'est les raccourcis, l'automatisation, des choses comme ça. On peut automatiser, par exemple, la publication d'un podcast. Si on se débrouille bien avec raccourcis, on pourrait automatiser certains trucs, des copier-coller, des choses qui vont se uploader. Et ben jusqu'à maintenant, pour l'instant, hein, sur votre Mac, ben ça vous l'avez pas. Donc c'est encore un avantage de l'iPad et de l'iPhone aussi, parce que vous pouvez le faire avec l'iPhone.
Clairement.
Voilà. Eh ben, merci beaucoup David pour tous tes conseils, pour ton temps que tu as passé, pour tes contenus aussi, parce que je pense que ceux qui t'écoutent apprécient aussi de pouvoir faire un bon tour de veille de ce qui se passe dans cet univers-là, hein, qui bouge. Alors, des fois, il est assez calme, et puis des fois, il se met à accélérer. Souvent, aux annonces de ce qui se passe chez Apple, hein, quand il y a des sorties. Et puis là, on est dans une période, tout le monde est un petit peu émoustillé hein, par nouveaux OS, nouveaux matériels, plein de trucs qui sortent. C'est une bonne période, quoi. Hein.
Ah, au mois de septembre, c'est clair que pour Apple, ceux qui aiment Apple, le mois de septembre est assez fourni, on va dire. Là, entre les mises à jour ce soir et l'arrivée du nouvel iPhone 1, de la nouvelle Apple Watch, il y a de quoi faire du contenu, clairement.
Voilà, et donc pour les créateurs de contenu sur le monde Apple, eh ben, c'est aussi un mois qui est bien rempli, avec plein de choses à dire. Donc les idées fleurissent dans tous les sens. Et donc je te remercie d'avoir pris un petit peu de temps pour nous. Et je vous dis, tous ceux qui écoutent ce podcast, hein, on se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode. Un bon week-end, hein, tout simplement. Et je te souhaite à toi aussi, bon week-end David.
Bon week-end.
Ciao, ciao les créateurs.
Au revoir.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.